Africa, le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur Africa Radio. Aujourd'hui dans le JDA, la mort de Steve Maya Kanitso, le jour de la fête de la musique durant la nuit du 21 au 22 juin dernier et ses conséquences, notamment politiques, depuis la confirmation de sa mort qui fait suite à une intervention policière ce soir-là à Nantes. La police est accusée, de même que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, par l'opposition. Que pensez-vous de cette affaire ? Nous entendrons Ali Traoré, militant associatif en France, président de l'Association des jeunes burkinabés de France. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 33 1 55 07 58 00. Laissez-nous un message sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonsoir. Voilà, j'appelle pour intervenir sur le cas de la rencontre entre le président Bédié et Gbagbo. Et moi, je dis que les Africains sont fatigués. Les Africains sont fatigués de ces vieilles personnes qui veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Je parle du président Bédié, de Laurent Gbagbo, et même du président actuel. Je pense bien qu'il ne va pas se représenter. J'espère bien. Et je prie pour mon pays, la Côte d'Ivoire, que ces trois personnes laissent le pouvoir et laissent les Ivoiriens vivre. Merci beaucoup.
Chers amis du JDA, bonjour. Chers amis Ivoiriens, bonjour. Ce mardi 30 juillet 2019, j'ai suivi sur Africa numéro 1 que M. Henri Konan Bédié et une délégation sont allés voir M. Laurent Gbagbo en Europe pour discuter de la politique en Côte d'Ivoire et aussi pour exiger donc la libération de tous les prisonniers politiques. Mais ce M. Konan Bédié n'a pas de mémoire vive. Je crois qu'il y a certaines personnes qui devaient prendre leur retraite de la politique parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique tout en faisant de grosses bêtises. M. Henri Konan Bédié sait bien qu'au fort de la crise politique en Côte d'Ivoire, il y avait la contestation et beaucoup de pays accordaient leur crédit à M. Laurent Gbagbo. Pour le décrédibiliser, la France et d'autres pays ont demandé à M. Henri Konan Bédié d'accepter que c'est M. Gbagbo et M. Ouattara qui avaient gagné les élections. Et voilà, tout bêtement, il a accepté. Donc, avec le poids politique qu'il avait, il a accepté. Bon, les gens ont dit que voilà, c'est Ouattara qui a gagné les élections. Mais maintenant qu'il est en disgrâce avec Ouattara, il ne savait pas ce qui allait arriver. Henri Konan Bédié est un fils de la Côte d'Ivoire. Il devait savoir qu'est-ce qu'attendait la Côte d'Ivoire avec la venue de M. Ouattara. Bon, mais maintenant, il est là à gauche, à droite, tout comme M. Guillaume Soro. Quelqu'un n'a jamais travaillé. Quand il sort des études directement, il est nommé Premier ministre. Mais après, il fait l'ingratitude envers M. Gbagbo. Bon, enfin, c'était un coup de gueule.
Bonjour les amis du JDA. Je suis un Ivoirien comme les autres. Je voulais donner mon point de vue sur la situation actuelle de mon pays. Je viens d'écouter M. Georges Akra. Et bien voilà quelqu'un qui fait partie du FPI, mais qui est Ivoirien comme nous tous, qui ne veut que la paix. Mais voilà, tout simplement, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Alassane Ouattara, nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous avons besoin tout simplement de la paix. Qu'ils viennent tous se mettre d'accord, qu'ils soient tous candidats, mais nous voulons rien que la paix. Rien que la paix, rien que la paix. Tout, on appelle tous les Ivoiriens aujourd'hui à mettre bas la terre. Ce pays est trop en avance. Comme dirait Mama Gose tout à l'heure, Bédié a travaillé, Ouattara a travaillé, Laurent Gbagbo a travaillé. Nous sommes aujourd'hui l'un des meilleurs pays de grâce. Les passions, les émotions. Voilà, il faut faire un effort pour laisser ces pays-là avancer. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrières, même petits-enfants, s'il vous plaît. Mais Georges Akka, vous êtes un Ivoirien. Et je vous salue. Car. Et bonne journée.
Chers amis de JDA, bonjour. Je interviens à propos de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Tout au début, l'opposition l'avait dénoncé que Félix est un président protocolaire. Personne n'a voulu croire que non, Félix sait à quoi il joue. Mais voilà, après 6 mois d'attente d'un gouvernement, soit disant que Félix était en train de résister à Kabila, Félix cède la défense, la justice, l'économie. Quel que soit le modèle de la coalition pour un président en exercice, chers Africains, à quoi est-ce que Félix est chef de l'État? Quelles seront ses prérogatives? Et à quoi est-ce qu'il pouvait lutter contre la corruption qui était vraiment son mot d'ordre de l'élection? Donc, conclusion, qu'on l'accepte ou pas, Félix est un président protocolaire. Merci, Max de la région parisienne.
Bonjour à vous tous. Nous savions tous que la politique déshumanise, mais dans certaines circonstances, elle dégoûte. Et dégoûte surtout de la politique et des politiciens. Je ne dis pas des politiques, mais des politiciens. C'est le cas en ce moment. À propos du jeune Stick qui est tombé dans l'eau de la Loire, vous voyez, quand ce sont des terroristes, comme pour le Bataclan, ton enfant de 24, 30, 40 ans, s'en va à un spectacle, il se fait tuer, c'est ignoble. Là, c'est la fête de la musique. En France, l'IGPN fait un rapport qui le remet aux politiques le 16 juillet. L'enfant est tombé à l'eau le 21 juin. L'IPGN remet le rapport le 16 juillet. Et aujourd'hui, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun mot à la famille. C'est seulement après la découverte du corps que le ministre de l'Intérieur, Castaner que nous connaissons, se présente aux côtés du premier ministre qui prend la patate chaude.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant 33 1 55 07 58 00. Steve Maya Kanitsou, un jeune homme, est mort lors de la fête de la musique à Nantes durant la nuit du 21 au 22 juin dernier. La police intervient ce soir-là pour déloger des personnes qui faisaient trop de bruit et cela dégénère. Steve Maya Kanitsou tombe dans la Loire. Comment est-il tombé dans le fleuve? Beaucoup de ses amis ont déjà répondu en disant que la police avait chargé sur leur groupe et que certains étaient tombés à l'eau. Selon le rapport de l'inspection générale de la police nationale publié mardi, il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition du jeune homme. Le gouvernement a promis de faire toute la lumière sur la mort du jeune homme. Ce drame intervient, rappelons-le, après une série d'accusations faites par le mouvement des Gilets jaunes, par une partie de l'opposition concernant les méthodes policières. Nous avons en direct Ali Traoré. Ali Traoré, bonjour.
Bonjour Nadir.
Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir en direct dans ce journal des auditeurs. Vous êtes militant associatif engagé en France. Vous êtes le président de l'Association des jeunes burkinabés de France. Tout d'abord, comment réagissez-vous à ce drame?
Moi, on ne peut que réagir en tant que jeune de façon, on va dire, alarmée. Parce que moi, j'ai été vraiment choqué par cette histoire. Le 21 juin, c'est une date symbolique en France et qui se transmet d'ailleurs même en Afrique.
Oui.
C'est la date où on célèbre vraiment la musique, où on célèbre la joie. En marge de cet événement, qu'on voit qu'une ville aussi dynamique que Nantes soit endeuillée de cette manière, c'est vraiment une déception de notre part. Et surtout, que rien n'a été fait pour retrouver cette personne-là au bout de 1 mois et qu'on le retrouve vraiment après 1 mois, c'est vraiment déjà une déception.
Oui.
Et l'autre déception, c'est que malheureusement, c'est dû à une, on va dire, à une intervention policière qui a dégénéré, qui n'a pas été maîtrisée et dont les conséquences n'ont pas été assez mesurées par les forces de l'ordre. Donc vraiment, c'est une déception totale.
Alors, selon le rapport de l'IGPN, qui est l'inspection générale de la police nationale, il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition du jeune homme. Est-ce que vous avez des doutes concernant ce rapport et surtout, est-ce qu'il ne donne pas le sentiment, ce rapport, de vouloir enlever toute responsabilité à la police ?
Je pense que c'est quand même prématuré de la part de cette institution que je respecte, hein, il faut le dire, mais je pense que c'était très prématuré de leur part de se prononcer alors que les corps n'ont pas été retrouvés. Le corps n'a pas été retrouvé dans la loi.
Le corps a été retrouvé, hein.
Oui, mais ils ont déjà sorti une réponse bien avant que le corps ne soit retrouvé. Dès le début, ils ont dit oui, on ne peut établir de lien. Donc ça veut dire que le travail n'a pas été fait de façon sérieuse et qu'ils ont été trop vite en besogne. Maintenant, il y a même un témoin qui est apparu, qui a signalé à la police le fait qu'un jeune homme était tombé dans la Loire lors de cette intervention. Cette personne n'a pas du tout été prise au sérieux et même dans le rapport, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu retrouver cette personne, alors que cette personne allait déposer plainte le lendemain à la police par rapport à cet acte. Donc je pense qu'il y a déjà un problème de sérieux en termes de traitement de cette affaire. Et surtout, l'IGPN gagnerait à redorer son image en allant au bout de cette histoire et en faisant toute la lumière.
Restez avec nous, Ali Traoré. Nous avons un premier auditeur, Jomo, qui souhaite réagir. Bonjour, Jomo.
Oui, bonjour, monsieur Abib. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
Et bonjour à toute la population africaine partout dans le monde. Et je dirais que cette affaire, vous savez, une affaire institutionnelle reste une affaire institutionnelle. Le policier, la police est un démembrement, est un service de l'État.
Ouais.
Alors, le policier.
Une affaire institutionnelle, mais il y a quand même eu mort d'homme, hein, Jomo, hein,
oui,
rappelons-le. Hein,
je suis d'accord, monsieur Nadé. Si vous me laissez finir, vous allez comprendre un tout petit peu mon raisonnement.
Ouais.
Je disais que même parmi les Gilets jaunes, parce que toute cette affaire, la police est mise en cause depuis le mouvement des Gilets jaunes.
Ouais.
On a vu des personnes qui ont perdu des bras, on a vu des personnes qui ont perdu le lead vocal des Gilets jaunes qui a perdu son œil.
Oui,
la police a été toujours dit qu'ils sont innocentés. Pourquoi ? On ne peut pas accuser un service étant aux ordres d'un ministre incompétent. Tout le monde l'a dit et on le dit.
Pour vous, c'est le ministre qui est responsable, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Le problème, c'est que la police agit sous des ordres hiérarchiques.
Oui.
Et les ordres hiérarchiques viennent d'où ? Ça vient du ministère.
Oui.
Et c'est pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que celui qui était là, le préfet de police qui était là, ne faisait pas son travail.
Oui.
Alors il fallait prendre un autre préfet de police qui pouvait exécuter directement et intégralement les instructions du ministre. Alors vous voulez que cette police soit mise en cause comment ? En mettant la police en cause, on met le ministre en cause, on met le président en cause. Et comme c'est des gens qui sont habillés, des corps habillés, qui sont habillés dans l'argent du contribuable, ils ne peuvent jamais être coupables de ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont toujours mandatés, ils sont toujours en mission. Imaginez un instant, nous avons vu beaucoup de choses. On est parti, on ne va pas aller loin, l'affaire Adama Traoré.
Ouais.
L'enfant est suivi par qui ? On a vu encore d'autres cas.
Oui.
On a vu encore plein de cas, je peux citer. Mais il faudrait que nous disons, on dit toujours il faudrait laisser la justice faire son truc, mais non, la justice peut travailler.
Oui.
Mais la justice n'est pas libre, comme je le dis.
D'accord.
Une justice, je ne dirais pas qu'en France, il n'y a pas de justice. Il y a une justice, contrairement à nos pays.
D'accord. Bon.
Mais il faut savoir que cette investigation, si elle irait jusqu'au bout, nous allons trouver des failles. Et c'est le ministre qui va démissionner. Et vu que dans les journaux, moi je regarde, le ministre Castaner, c'est l'un des bras droits du président Macron.
D'accord.
C'est pas quelqu'un qui peut démissionner à un clin d'œil.
D'accord.
Non. Pas du tout. Ce n'est pas une accusation personnelle, c'est une accusation nationale.
D'accord.
Le ministre donne des ordres au préfet de police, le préfet de police donne des ordres aux directeurs régionaux de police, et la police donne maintenant des directions à leurs commandants respectifs, des unités et tout ça, et ceux-là, ils agissent. Et comment vous voulez qu'on accuse celui qui commet l'acte et celui qui donne ? Il faut plutôt accuser le donneur d'ordre.
D'accord.
Le donneur d'ordre, c'est Castaner. Si nous attendons la démission de Castaner, je vous dis, nous allons beaucoup dormir sur nos lauriers.
Très bien.
Je le dis et je le dis, cette justice, cette enquête, je le dis, M. Traoré vous le dira, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Très bien.
Ça, je vous le dis.
Merci beaucoup, Jomo, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Intervenez et dites-nous ce que vous pensez de cette affaire, de ce drame qui a coûté la vie donc à un jeune homme durant la nuit de la fête de la musique, durant la nuit du 21 au 22 juin dernier à Nantes. Ali Traoré, est-ce que vous avez le sentiment que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est fragilisé aujourd'hui?
Je pense qu'il, personnellement, pour répondre directement à cette question, il n'est pas fragilisé encore.
Ouais.
Ce qui est dommage, parce que réellement, on est d'accord que sur cette affaire, il y a déjà une faille.
Oui.
On ne peut pas laisser traîner une affaire aussi longtemps, sachant qu'il y a eu mort d'homme.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà une incompétence qu'on peut noter.
Oui.
Mais ce qu'il faut aussi, il faut aller plus loin. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'état d'esprit de nos policiers, il va falloir aller faire des enquêtes et savoir où en sont les policiers.
Oui.
Depuis les
On le sait, hein, depuis beaucoup se sont exprimés. Hein. Oh. Oui.
Mmh. Oui, non, mais je peux l'entendre sur ça. Mais ce qu'il faut se dire, le contexte français aujourd'hui, il faut qu'on tire les leçons depuis les attentats du Bataclan, depuis le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait plus de 35 semaines que les Gilets jaunes manifestent et que les policiers sont vraiment sous pression.
D'accord.
Il faut faire une enquête pour savoir quelles sont les conditions dans lesquelles les policiers travaillent. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est aussi de savoir quelle est l'attitude des policiers envers la population aujourd'hui.
Parce qu'on
sent que la France, qui était donneuse de leçons sur des méthodes, on va dire, violentes, des méthodes qui étaient dénoncées dans certains pays, comme l'Iran, par exemple, comme la Russie, aujourd'hui, c'est la France qui est au même banc au niveau de l'ONU, c'est la France qui est accusée sur le même banc.
Oui, concernant les violences policières. Oui.
Concernant les violences policières. Donc, la vraie question, il faut faire une enquête sérieuse pour revoir l'état d'esprit de nos policiers, parce que les Gilets jaunes l'ont démontré, parce que aussi, comme il le disait M. Dumont tout à l'heure, on a un sentiment d'impunité des policiers, parce que tout simplement, ça couvre les ministres qui sont derrière.
D'accord.
Derrière, on a plein de cas qui s'accumulent. On a le cas de Adama Traoré, depuis 3 ans, où on n'a pas une lumière qui est faite sur cette histoire.
Oui.
Donc, ça veut dire que l'IGPN, déjà, il faudrait qu'on pense à la rendre indépendante.
Oui.
Il faudrait absolument réformer cette institution.
Mais que pensez-vous aussi de
juger comme tous les autres justiciables?
Oui, mais que pensez-vous de l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe, qui a confié une enquête aussi à une autre autorité, qui est l'inspection générale, et qui a promis de faire toute la lumière sur la mort du jeune homme, en plus de l'IGPN?
Mais comment est-ce que, déjà, l'instrument phare qui va faire vraiment la lumière sur une affaire soit sous l'exécutif, alors qu'on a besoin que ce soit sous le pouvoir judiciaire? On parle d'indépendance du pouvoir en démocratie. Il faut absolument que ces institutions qui vont enquêter sur les policiers, qui vont enquêter sur l'exécutif, soient détachées complètement de l'exécutif et aient les mains libres pour faire les enquêtes. Aujourd'hui, quelle que soit l'institution à laquelle on va confier cette affaire, tant qu'elle reste sous la responsabilité du Premier ministre, cette institution ne pourra pas faire son travail correctement.
Est-ce que vous avez le sentiment que les forces de l'ordre ont adopté un tout répressif depuis un an? Alors, il s'agit peut-être de directives venant de l'État, parce que c'est vrai qu'on l'a vu depuis les Gilets jaunes, la police et la gendarmerie sont sous le feu des critiques.
La répression policière est en train de monter en tout cas crescendo.
Oui.
Il y a une part, comme je le disais, il y a une part de psychologique, il y a une part de contextuel, mais il y a aussi une part de directives stratégiques qui sont données par nos dirigeants aujourd'hui. C'est pourquoi il faut une enquête indépendante, d'ailleurs, pour que la France se remette en question. Parce qu'il y a un refus de remise en question de la France.
Oui.
Si la France est interpellée au niveau de l'ONU, et que la France ne peut que servir un discours arrogant en disant « circuler, il n'y a rien à voir », c'est qu'il y a un problème. On a eu le cas avec les LBD qui ont été tirés par dizaines de milliers qui ont coupé des bras, qui ont cassé des yeux, et que rien n'est fait et que la France ne s'assume pas aujourd'hui. C'est ça le problème. La France que moi je connais, franchement, je ne la reconnais pas. La France des droits de l'homme, on ne la reconnaît pas par rapport à ces actes-là. Ces actes-là, on les voyait dans des pays comme les États-Unis. On les déplore. Il y a plein de gens qui se battent pour ça. Hein, quand on parle de Our Lives Matter, c'est des initiatives qui étaient loin de la France, mais aujourd'hui nous sommes en plein dedans. Et quand on voit que la promptitude de la justice à saisir contre les gilets jaunes, contre tout type de manifestants. Et après, on voit en parallèle l'inaction de la police face à des actions où on met en cause des policiers. C'est décevant. Adama Traoré, c'est depuis 3 ans.
Effectivement, depuis 3 ans. Et est-ce que vous direz que c'est typiquement français ce rapport de l'État par rapport à la police, à savoir que la police est toujours protégée par au sommet de l'État, par le sommet de l'État?
Ce n'est pas propre à la France.
Mais sur le plan européen, je précise. Sur le plan européen.
Sur le plan européen, je n'ai pas la culture assez suffisante pour le dire, parce que je ne maîtrise pas tous les pays européens. Mais ce qui me semble, c'est qu'en tout cas en Occident, la police est mise sur un piédestal, puisque la police est l'exécutif, c'est aussi la rigueur de la loi. Pour appliquer la loi, c'est la police, et la police doit être sacralisée, je l'entends bien. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne du recul et que les policiers puissent répondre aussi de leurs actes comme des citoyens justiciables, comme tout le monde.
33 1 55 07 58 00, appelez-nous et dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Nadir.
Bonjour Mamadou, on vous écoute.
Excusez-moi, je voulais signifier deux choses, parce que j'appelais par rapport à l'intervention de Monsieur Diomo.
Oui.
Que c'est vrai que Monsieur Castaner, peut-être tu peux dire qu'il est incompétent, mais je ne peux pas tout mettre sur M. Castaner, ça c'est de 1.
Oui.
Parce que quand notre frère Adama est tombé, M. Castaner n'était pas encore ministre.
Oui.
Je rends hommage aussi à notre frère Ziad et Bouna qui sont tombés depuis 10 ans où la justice n'a pas été rendue.
Oui.
Et aujourd'hui, les policiers, ici, c'est des policiers, dès qu'ils sortent de leur caserne, c'est pour aller casser. Eux, c'est pour aller casser des hommes, les autres, c'est pour casser des vitres. Ils accusent les Black Blocs, mais je trouve bien que les policiers français sont encore plus barbare que les manifestants, si je peux bien m'expliquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que la police fait, comme ce que votre invité vient de dire, il y a un monsieur qui est parti témoigner que j'ai vu quelqu'un qui est tombé dans l'eau.
Oui.
Et ils n'ont pas pris ça en compte. Et où vous allez vous plaindre?
Oui.
Donc aujourd'hui, il faut tout revoir dès la base, parce que la formation elle-même, et puis je ne sais pas.
Il faut revoir la formation des policiers, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, parce que les policiers aujourd'hui, ils aiment le contact, ils préfèrent ça, parce que quand ils sont dans les casernes, pour moi, ils s'ennuient beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ils préfèrent le contact, ils sont là pour assurer l'ordre, quand même.
Non, ils préfèrent.
Maintenant, il peut y avoir des dérives chez certains membres de la police, effectivement.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, des manifestants pacifiques, écologiques qui étaient assis, ils sont venus les pomper à gaz lacrymogène en plein visage.
Oui, effectivement.
Vous avez vu ça. Il n'y a pas plus de violence que ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a Théo, notre frère aussi, où la justice n'a pas été rendue. Il y a tellement de délits qu'aujourd'hui, la police est intouchable.
Oui.
Si on veut citer, on ne va jamais arrêter de parler de cette histoire-là.
Oui.
Et la police, ils sont blancs comme neige. À chaque fois qu'il y a un problème, ils sont invités sous les choses, comme on appelle, les tableaux de télé.
Oui.
Et à chaque fois, les syndicats, on est fatigué. À un moment donné, quand tu es fatigué...
Dans cette affaire, dans ce drame qui a coûté la vie à Steve, qu'est-ce que vous reprochez à la police? Parce que ça peut être un accident aussi, Steve est tombé à l'eau, après que la police est chargée au conditionnel, l'enquête le dira. Qu'est-ce que vous souhaitez? Plus de transparence concernant ce qui s'est vraiment passé ce soir-là à Nantes?
Si je parle, peut-être qu'il va avoir des propos racistes, mais le problème de Steve, je crois que ça va réveiller beaucoup de mal, parce que nous, nos frères, on a tendance à laisser beaucoup de choses tomber, mais cette histoire, je sais que ça va loin de l'histoire de Steve. Parce que l'enquête, ils avaient arrêté l'enquête. Je crois bien que c'est la France insoumise qui s'est levée, qui a mis un coup de pression et puis ils sont rentrés, et en train de chercher encore le corps, et ils ont retrouvé le corps. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça peut être un accident, mais trop d'accidents, on trouve à un moment donné c'est fait sciemment, quoi. Parce que aller trouver des pauvres gens qui sont assis, et en plus, c'était sur un pont, en plus. Les gens qui ont gazé avec la bombe à crime.
Vous
met, voilà. C'était sur un pont. Sur la pleine Seine, ils pouvaient sauter dans la flotte aussi.
D'accord.
Donc, je peux pas dire l'histoire de Steve, ça peut être un accident.
D'accord.
Si nous tous, on a vu ça, et le monde entier a vu ça. Et c'est impossible de dire que l'histoire de Steve, c'est un accident.
Très bien, merci.
Parce que des gens qui étaient assis, voilà, à bras croisés, en train de manifester.
D'accord. Oui, non, mais ça, c'est une autre affaire. D'accord. Voilà. Mais merci, Mamadou, pour votre intervention. Nous avons en ligne Kevin. Kevin, bonjour.
Allô.
Allô, Kevin.
Oui, bonjour monsieur. Oui, excusez-moi, moi je suis de la Loire-Atlantique, de Nantes.
Ah oui, bah, merci beaucoup d'intervenir. Oui, oui.
Voilà, c'est pour cela que je prends la peine de parler. En fait, moi déjà, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de Steve
oui.
pour la perte de ce jeune homme qui était animateur dans les écoles, dans les différentes écoles de Nantes, qui a eu même une de mes filles, le connaît très bien. Mais ce que je souhaiterais dire aussi, l'endroit où l'action s'est passée,
oui.
c'est un endroit qui n'est pas facile.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller, il faut bien sécuriser la zone.
Oui.
Et
oui.
travaillant avec les forces de l'ordre, je ne les dédouane pas. Mais je pense que les policiers nantais sont beaucoup républicains.
Oui.
Ils sont très républicains pour avoir beaucoup travaillé avec eux.
Oui.
Moi, je pense que Steve, ce jeune homme, a perdu la vie parce qu'il n'y a pas eu assez de sécurité. Si il y avait
D'accord.
assez de garde-fous pour protéger la loi... Ça n'allait pas arriver.
Ça n'allait pas arriver, oui.
Mais je n'accuse pas les flics pour dire que non, ils ont fait. Non, non. Les connaissants, ils sont très républicains. Ils travaillent très bien. Parce que moi, il y a beaucoup qui travaillent beaucoup avec la police.
Oui, oui.
Voilà. Donc, c'est ce témoignage que je voulais apporter.
Et que pensez-vous, j'en profite, Kevin, parce que vous êtes oui. de la région. On sait que dans le rapport oui. de l'IGPN, il y a une accusation concernant les autorités de Nantes, en fait, la mairie de Nantes, pour avoir autorisé donc cette soirée de la fête de la musique, justement, dans un endroit qui est réputé dangereux près de la Loire.
Je ne peux pas donner mon témoignage. J'ai entendu, mais est-ce que c'est vrai? Ça a quand même étonné. Parce que la mairie de Nantes, ils sont quand même très...
Ils ont vivement réagi à la mairie de Nantes. Hein. Ils n'ont pas beaucoup apprécié ce que dit le rapport.
La mairie de Nantes, comme l'ancien, on le connaît très bien.
Ouais.
C'est des gens qui ont fait un très bon boulot. Donc, je ne pense pas qu'ils vont se permettre de donner une autorisation si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Je sais qu'il y avait des agents de sécurité présents là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas savoir. Mais moi, je pense qu'il faut déjà sécuriser cette zone-là. Parce que je vous dis un truc.
Oui.
Souvent, moi, le jeudi, quand je travaille,
oui.
ou bien quand je suis sur le point d'aller au boulot vers 5h, 6h, souvent, des jeunes bourrés qui essaient de faire des compétitions pour dire
oui.
on va monter pour se jeter à l'eau pour voir qui va ressortir le premier. Ça arrive régulièrement là-bas. Mais ça, ce
oui.
n'est ni la faute à la mairie de Nantes, ni la faute, comment dire, aux forces de l'ordre.
Oui.
Souvent,
oui.
il y a des gens qui veulent se croire plus forts qu'autrui.
D'accord.
Ça peut arriver. Moi, je pense qu'il faut miser beaucoup sur la sécurité. Si on peut élever même les garde-fous à un certain niveau, 1 mètre, 2 mètres, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut miser plus sur la sécurité là-bas.
Très bien.
Ça va éviter beaucoup de drames.
Merci. Merci beaucoup, voilà. Kevin, pour votre intervention. Nous retrouvons Ali Traoré. Ali Traoré, comment réduire le fossé qui existe actuellement, on le voit bien, entre la police et une partie de la population, et notamment de la jeunesse?
Je pense que la police doit revoir sa communication et aussi vraiment ses techniques d'intervention.
Oui.
Parce que déjà, si on regarde les gilets jaunes, depuis des mois et des mois, nous avons des black blocs qui arrivent, qui cassent tout,
oui.
et la police qui intervient violemment.
Oui.
C'est un recommencement sans fin. Tout au long des semaines, c'est la même chose qui se passe. Moi, je me pose la question. Depuis au moins...
Mais comment faut-il intervenir alors face à des individus violents? C'est ça aussi la question.
En fait, la question, c'est quoi? Là où je veux en venir, c'est que pour moi, la police ne fait pas son travail de prévention. La police ne fait pas assez son travail de neutralisation à la source de l'organisation de ces black blocs. Normalement, la police les connaît. Ils ont des signalements. Ils ont des fichiers. Ils suivent ces personnes-là. Ils savent
oui,
où ils sont.
Oui,
ils savent
oui.
où ils se réunissent. Ils sont capables d'arrêter ces manifestations à la source. Mais ils ne le font jamais. À qui profitent ces crimes? Cette question aussi, il faut se poser. Parce que la question aussi, c'était de décrédibiliser les gilets jaunes. Et les Black Blocs, ils sont vraiment arrivés à décrédibiliser les gilets jaunes dans l'opinion nationale. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que la police refasse son travail, parce que moi, je trouve que la police ne fait pas son travail. Son travail, c'est déjà un travail préventif pour qu'elle n'ait pas à intervenir. Et une fois que ce travail est fait, je pense qu'ils auront beaucoup moins à intervenir et il y aura moins de risques. Et quant à, aussi aux interventions, on l'a vu, c'était comme il le disait Kevin, c'est un endroit qui est, on va dire, dangereux.
Oui, réputé dangereux.
Si les policiers sont républicains, ils n'avaient qu'à sécuriser leur intervention. On n'intervient pas dans toutes les conditions. L'intervention de la police ne doit jamais, en aucun cas, mettre en danger la vie des personnes qui cherchent à interpeller ou bien à arrêter. Donc, je pense que ça, ce n'est pas des arguments. Les arguments de Kevin, franchement, je ne les suis pas.
Ouais.
Il a souhaité les condoléances à la famille, mais c'est bien. Mais par contre, les arguments qu'il me dit, ils sont républicains, non. Là, il y a mort d'homme et chacun doit porter ses responsabilités et les policiers étaient censés intervenir avec professionnalisme.
Restez avec nous, hein, Ali Traoré. Nous avons d'autres auditeurs. Nous avons en ligne Adioubi. Adioubi, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Adioubi, on vous écoute.
Oui, donc moi, comme pour les auditeurs précédents, bien entendu, je déplore la mort de ce jeune homme. Mais il y a un truc qui est fondamental dans cette histoire, c'est le respect de la loi.
Oui.
Moi, j'ai 44 ans, j'ai grandi en cité, j'étais un jeune con. Effectivement, on a eu affaire à la police quand on était plus jeune, et quand on ne respectait pas, effectivement, la police venait, intervenait, et soit nous rappelait à l'ordre, soit on se retrouvait, quand on avait vraiment commis un délit,
oui.
On se retrouvait au commissariat et tout. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'apprends mes enfants à respecter la loi, et bizarrement, quand j'ai commencé à grandir et que j'étais plus au fait de la loi et de la respecter, je n'ai plus de problème avec la police. Donc il y a un truc qui est fondamental dans tout ça,
oui,
c'est que
oui.
Quand il y a des règles, il faut les respecter. Parce que si chacun décide de faire ce qu'il veut, c'est anarchie. Et c'est le plus fort qui va gagner.
D'accord.
La police, la manière peut être controversée, mais elle est censée représenter le bras armé de la loi.
Oui,
et quand
oui.
les gens ne la respectent pas, la police doit intervenir.
Oui.
Donc je pense que c'est surtout peut-être sur la manière que elle intervient,
oui.
mais elle est là pour respecter la loi. D'après moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que cette histoire de cette fête,
oui.
elle devait s'arrêter à une certaine heure.
Oui.
Elle ne s'est pas arrêtée à cette heure-ci.
Oui.
La police
oui.
est venue intervenir une première fois.
Oui.
Apparemment, ils ont été caillassés.
Oui.
Les policiers sont revenus de nouveau avec des renforts pour pouvoir faire cesser la fête. Vous savez comment ça se passe une rave party? Quand t'es derrière dans des champs, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue et tout.
D'accord.
Et là, à côté d'un cours d'eau, le danger est multiplié d'autant plus. Donc, la justice va faire la lumière sur cette affaire,
oui.
savoir les circonstances dans lesquelles est mort ce jeune homme,
oui.
à quel moment, est-ce que c'est la faute de la police ou pas,
oui.
mais c'est un juge d'instruction qui va
oui, bien faire sûr, la lumière effectivement.
Là-dessus, et pas un magistrat du parquet. Le juge d'instruction est indépendant, et souvent, bien entendu, les juges d'instruction ne sont pas du tout du côté de la police.
Oui,
donc,
oui, oui.
On aura vraiment la lumière là-dessus, mais il faut laisser faire la justice avant de dire incriminer qui que ce soit.
D'accord.
Que ce soit aussi bien.
Donc vous avez confiance en l'enquête et vous avez confiance à ce que le gouvernement a dit,
mais
à savoir de faire toute la lumière.
Oui. Qui est capable, parce que chacun donne son point de vue.
Bien
sûr.
Il
y a des témoins qui sont là,
oui.
qui ont pu voir des choses, qui ont pu dire des choses. On va entendre tout ça. Et tout, la police qui est intervenue, les syndicats qui protègent leur corporation. Donc tout ça, on va avoir l'enquête et tous les éléments vont pouvoir déterminer les circonstances de cette affaire. Donc personne n'est capable aujourd'hui de dire qui a eu tort, qui a eu raison.
D'accord.
Le seul truc qu'on doit prendre compte, c'est qu'il y a eu un mort. Et que c'est forcément, il y a, comment ça s'appelle, quelqu'un ou une personne, ou les circonstances, ou l'organisation a été mal faite, ou l'intervention de la police a été mal faite
ouais.
pour que ce drame.
D'accord.
Et comme je dis, il y a un point principal dans toute cette histoire, c'est que quand on ne veut pas avoir affaire à la police, il est nécessaire de respecter la loi. Les gilets jaunes, désolé, j'ai participé à des manifestations quand j'étais étudiant, quand les mecs étaient en train de renverser les voitures, je m'écartais le plus loin possible parce que je suis noir et que je sais qu'il y a de fortes chances qu'on me mette dans le lot des personnes qui ont pu renverser cette voiture. Donc quand on n'a pas de problème,
d'accord.
on s'écarte du problème.
D'accord. Merci beaucoup, Adioubi, pour votre intervention. Alors, Ali Traoré, peut-être une réaction. Le problème, selon lui, ce n'est pas la police, mais il faut respecter la loi.
Je pense que on ne peut pas décharger la police de sa responsabilité. Et aussi, bien sûr, on respecte la police, on respecte la loi. C'est des fondamentaux. Et Monsieur Adioubi a bien raison d'inculquer ces valeurs à ses enfants. Mais ce que je dis aussi, c'est que il y a 20 ans, quand il était jeune, depuis 20 ans, je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui ont coulé. Les générations aussi ont changé. Et la police n'a pas forcément adapté ses méthodes. Les méthodes qu'on appliquait il y a 20 ans, on ne peut pas les appliquer aujourd'hui.
D'accord.
Parce que la population a changé, parce que les jeunes que nous avons aujourd'hui ont aussi changé. Et surtout, dans cette affaire, la responsabilité première, c'est la police. Parce que si la police n'était pas...
Ce ne sont pas les organisateurs de cette soirée. Pour vous, c'est la police.
Non, la première responsabilité, c'est déjà l'intervention de la police. C'est ça qui déclenche la mort de Steve.
Oui.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres responsabilités qui peuvent venir.
Oui,
la responsabilité des personnes qui auraient dû sécuriser la Loire, parce que ce n'est pas la première fois qu'une personne tombe dans la Loire.
Oui.
Et il y a eu plusieurs morts, on le sait. Donc, cette responsabilité doit être posée. Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la collectivité territoriale qui doit s'occuper de cela? Il faut poser la question. Aussi, il faut poser la question des organisateurs. Comment est-ce qu'ils peuvent laisser dégénérer cette fête-là, alors qu'ils avaient demandé une autorisation, il y avait des horaires qui avaient été donnés et qu'il fallait respecter. Bien sûr, toutes ces responsabilités doivent être étudiées, mais je pense que là, on est vraiment sur la question des violences policières. Il faut que la police, sa responsabilité soit située et surtout que cette affaire soit le point de départ d'une remise en question même de ces stratégies de la police,
oui,
de leur intervention. Et aussi, surtout, de montrer que c'est la fin de ce sentiment que nous avons de deux poids, deux mesures avec la police, parce que quand c'est la police qui intervient, on a une lenteur. Quand c'est la police qui est mise en cause, on a une lenteur de la justice, alors que quand c'est pas la police, on a une justice qui intervient avec des vitesses records qu'on a vues, notamment dans la crise des Gilets jaunes. C'était juste phénoménal. Et maintenant, les citoyens ont besoin d'un sentiment de justice et que tous les justiciables sont au même niveau. Même la police compris.
Nous avons en ligne Victor. Victor, bonjour. Allô, Victor ? Victor ?
Allô ?
Oui. Victor, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends parfaitement.
Bon, on vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui, merci encore pour l'occasion que vous me donnez. Sans vouloir défendre la police, j'aurais souhaité, peut-être que vous... il est aussi un agent de la police ou quelqu'un qui représente la police pour quand même expliquer, sinon donner leur version.
Oui, nous avons essayé de les joindre, mais vous savez, comme nous sommes le 1er août, très peu de gens sont disponibles le 1er août, malheureusement, mais nous avons effectivement essayé de joindre à la fois des associations qui sont en pointe dans cette affaire, mais aussi des syndicats de police.
Okay. Voilà. Pour aller rapidement, il est important que la police... au cas où il s'est avéré qu'elle a intervenu et que par la suite il a eu le décès du frère Steve, il n'y a pas de honte à reconnaître certainement les faits. Si c'était vrai, parce que ça a une confiance entre la population et la police. Je prends un exemple, je crois en Angleterre tout près, il y a quand même cette cohabitation entre la population et puis la police. De telle sorte que quand on voit un policier, on n'a pas peur.
Au contraire,
on est content de l'approcher.
Et il faut rétablir la confiance, c'est ça ? Il faut rétablir la confiance.
La confiance au niveau de la France, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'était mon intervention, je vous remercie.
Merci beaucoup Victor pour votre intervention. Alors Ali Traoré, on l'a entendu, rétablir la confiance entre la police et une partie de la population, c'est obligatoire aujourd'hui.
Effectivement, je pense que ce point il est très très important.
Oui.
Hein, c'est ce que j'ai aussi essayé d'introduire dès le départ, de dire il faut analyser le comportement de la police et la méthode de la police. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire ces rapprochements entre les populations et la police en France, parce que la police, on voit avec toutes ces affaires, la confiance ne peut que se déliter au fur et à mesure, et qu'on est obligé que la police fasse ce travail de reconstruction. Et ça commence par les ministres. On parlait de Christophe Castaner tout à l'heure. Christophe Castaner doit prendre ses responsabilités et revoir la stratégie et la vision qu'il a de la police.
Oui.
La police répressive à tout prix, ou la police au service du politique en décrédibilisant toutes les manifestations par des violences, ça c'est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut réconcilier les citoyens avec la police. Parce que les ministres de l'Intérieur, comme vous l'avez vu, depuis Manuel Valls et même depuis Nicolas Sarkozy, même, il faut dire, ça a toujours été des personnes assez téméraires, des personnes qui ne parlaient que de ce côté régalien de la loi qui s'impose aux citoyens. Alors
d'accord.
Que ce n'est pas que le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est de nous protéger. Moi, j'ai envie de me sentir en sécurité avec les policiers. Je n'ai pas envie d'être tout le temps sur mes gardes et me dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» On tombe dans
la paranoïa. C'est le mot de la fin.
Il faut vraiment que nous apaisons.
C'est le mot de la fin, Ali Traoré. Merci beaucoup pour votre intervention. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs sur Africa Radio.